Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une émission évidemment consacrée au cinéma. Aujourd'hui, trois comédies et deux interviews. Alors, tu vas nous parler d'une des comédies, Guillaume, et ça concernera aussi une interview.
Oui, bonjour, je vais parler du dernier film de Thierry Cliffat, Les Rois de la Piste.
Et nous aurons l'occasion donc d'entendre le réalisateur Thierry Cliffat. Moi, je vous parlerai d'une autre comédie, c'est Heureux Gagnant de Maxime Govard et Romain Chouet. Et ce ne sont pas les réalisateurs que nous entendrons, mais une des comédiennes, Audrey Lamy, que j'ai eu le plaisir de rencontrer en tête-à-tête. Quant à vous, Manu et Sophia, vous avez des films qui viennent de l'étranger.
Oui, moi j'ai un film malaisien donc, qui s'appelle Tiger Stripes.
Et moi, je vous emmènerai au Chili, dans un centre pénitentiaire pour mineurs, avec Mis Hermanos.
Mais nous allons commencer avec la troisième comédie de cette émission. C'est un premier film qui est en carton en Italie, sur une femme qui va sur le chemin de l'émancipation. Il reste encore demain, nous en parlons.
Cinérama.
Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas?
Actualité, cinéma et tout le reste.
Pas très compliqué à comprendre.
Alors qu'en Italie, le cinéma n'est pas en très grosse forme depuis quelques années, un film vient de réaliser des scores inimaginables, plus de 5 millions d'entrées pour Il reste encore demain, de quoi battre Barbie et Oppenheimer. Pourtant, ce film réalisé en noir et blanc et au format carré ne peut s'y comparer. Il faut dire que ce film, qui raconte l'histoire d'une femme cherchant l'émancipation dans l'Italie de l'après-guerre, est sorti en même temps qu'un fait divers. Comme il en arrive malheureusement régulièrement, une étudiante a été tuée par son ex-compagnon. Le film est alors entré en résonance avec l'actualité, avec la société même. Le film en noir et blanc donc commence fort par une claque donnée par le mari de Delia au saut du lit. La violence du geste est perçue par le spectateur, mais le comportement de la victime a de quoi surprendre. Elle acquiesce et se met dans ses chaussons pour commencer une nouvelle journée. Tout est dit. Les plans qui suivent suffisent à rendre compte de la vie de cette mère romaine de trois enfants. Elle s'occupe de tâches ménagères, mange après les autres, et une fois dehors, le moment de liberté ne dure qu'un temps, car elle va de petite tâche en petite tâche pour récolter quelques billets dont elle conserve une partie. Alors, cette virée en dehors de la maison a de quoi surprendre, car la réalisatrice, dans un mode de travelling, choisit de placer un morceau que j'ai reconnu tout de suite et qui ne nous emmène pas vraiment en 1946, c'est celui de John Spencer, Blues Explosion. C'est la première incartade de ce film qui emprunte au néoréalisme italien, mais en injectant beaucoup de fantaisie. Cette fantaisie va permettre à Paola Cartelesi, qui en Italie a été présentatrice télé, humoriste et comédienne, de mettre de côté le drame. C'est ainsi que des violences exercées par le mari pour un oui ou pour un non ne seront jamais montrées. La réalisatrice a recours à la chorégraphie comme des pas de tango contrariés. La fantaisie est aussi dans le scénario, on suit une histoire, mais il semble qu'une autre se dessine. La mise en scène accentue le conditionnement d'une société viriliste, la manière dont elle peut même rendre aveugle la jeune fille qui veut se marier et qui, croyant trouver un amour, et on y croit avec elle, n'obtient qu'un homme qui se conduit comme il l'a vu, en exigeant. On pourra être surpris par cette forme qui déplace le drame, écarte ce qu'il y a de plus douloureux, mais à la lumière du dénouement, on ne peut que s'incliner devant le geste de la réalisatrice qui joue aussi le rôle principal. Des gens perdent du temps à se demander si c'est un film féministe. Qu'importe, ce qui est notable, c'est qu'ils regardent notre société avec les moyens du cinéma. Voilà, donc ce film, Il reste encore demain, est en salle depuis le 13 mars. Une famille habituée au plan foireux est impliquée dans le vol d'un célèbre tableau. Nous parlons des Rois de la Piste.
J'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Cinérama.
C'est votre dernier mot ?
L'état de la comédie française est si catastrophique qu'on se demande bien ce qu'il lui reste de comique et de français à exploiter pour exister. Alors Thierry Cliffat, lui, ne se pose pas la question puisqu'il fait partie de ces rares réalisateurs actuels qui revendiquent l'héritage du bon rire gaulois et qui comprennent les rouages des genres qu'il emploie, et ce de manière naturelle puisqu'il a longtemps été journaliste. journaliste dans la presse spécialisée avant de devenir un réalisateur à succès. Alors pas de surprise, hein, comme pour ses précédents films, il y a une pluie de grands acteurs pour camper des rôles de premier et de second plan au service d'une mécanique éprouvée, hein, mais terriblement efficace quand elle est faite dans la joie, la bonne humeur et l'envie de faire plaisir aux spectateurs. En somme, du neuf fait avec du vieux, hein, avec ce qu'il faut d'amour et de facétie pour que ça prenne.
Se planquerait dans le Cotentin.
S'il se cache dans ce trou perdu, c'est parce qu'il a encore le tableau.
T'es sur ton tuyau parce que c'est cafard ici, hein.
Car Cliffa a la grande qualité de vouloir être le spectateur numéro 1 de ses films et d'y mettre ce qu'il aimerait voir et de le traiter avec le respect qui lui est dû. Ainsi, les pérégrinations de ses pieds nickelés n'en sont que plus sympathiques et font mouche à tous les coups. Alors jugez plutôt du tableau, car il s'agit justement d'un tableau à voler qui va être le point de départ d'une intrigue farfelue. Si c'est déjà une chose de le voler, c'est aussi autre chose que d'arriver à le refourguer. D'autant plus que la toile, très célèbre et très coûteuse, va être l'objet de nombreuses convoitises et va être dans la ligne de mire d'une détective peu orthodoxe qui va devoir faire face à non pas un voleur, mais à toute une famille de bras cassés qui se sont passés le relais de la loose de génération en génération et dont la matriarche, Rachel, se délecte des aventures qui résultent de ces coups qui réussissent rarement ou qui se plantent souvent lamentablement. Bref, des affreux salés méchants incampés par un au moins que Laetitia Deutsch, Mathieu Kassovitz, Nicolas Duvauchel ou encore Michel Villermoz, dans ce qui est une comédie policière qui n'hésite pas à rendre hommage au cinéma enchanteur et décomplexé de Philippe de Broca ou encore Jean-Pierre Rapeneau avec ce qu'il faut de zeste de comédie italienne pour la satire familiale, sentimentale et même un petit peu sociétale qui vous réservera de nombreuses surprises et, en guise de cerise sur le gâteau, de quoi lorgner vers l'élégance d'une certaine comédie américaine désormais bien enterrée. Alors, le réalisateur m'avait confié qu'il avait comme référence d'outre-mer Family Business de ciné lui mettre en tête déjà une histoire de cambriolage entre soi. Mais le meilleur reste bien évidemment pour la fin. Alors, en tête de gondole de tous ces névropathes, il y a une Fanny Ardant que l'on n'avait pas revue aussi pétillante et aussi bien utilisée depuis peut-être 8 femmes de François Ozon, à ses dires. Elle est l'atout ultime des rois de la piste, le phare de l'entreprise, et elle le sait tant elle s'approprie des situations amoureusement écrites pour elle. Alors s'il n'y avait qu'une seule raison d'aller voir cette très sympathique comédie qui a la grande classe de ne jamais prendre de haut ni ses spectateurs ni ses personnages et de leur en donner toujours plus au fur et à mesure qu'elle se déroule, c'est bien pour ce retour en fanfare de l'ancienne muse de François Truffaut.
Eh bien oui, Les Rois de la Piste, film que j'ai vu aussi. Alors je dois dire que j'ai été assez surpris par le rythme de cette comédie avec le jeu des acteurs. Ils sont nombreux. Alors il y a peut-être un peu de cabotinage de la part de Fanny Ardant, mais en même temps, ça fait plutôt du bien. Et puis, c'est surtout dans sa manière de ce qu'il peut dévoiler aux spectateurs et de ce qu'il doit cacher. C'est d'ailleurs des questions que j'avais posées lors de la conférence de presse, parce qu'on avait pu rencontrer Thierry Cliffa, lors du cinémètre de Montpellier. On l'écoute.
Il faut qu'on y aille. Elle est magnifique, ce tableau. Elle a dû refaire souffrir des hommes.
Prends la croûte, allez, on y va.
Putain, merde.
Qu'est-ce que vous faites là-haut ?
Il y a quelque chose dans la comédie, c'est que les choses, enfin en tout cas quand vous écrivez, c'est que les choses vous font rire une fois, deux fois, puis au bout d'un moment, ça vous fait plus rire, alors que ça reste drôle. Donc c'est toujours cette frontière-là qui est difficile. Et là, ce qui était particulier, c'est qu'il ne fallait pas que, comme je voulais mélanger les gens, il ne fallait pas que l'intrigue policière prenne le pas sur la comédie et que non plus l'intrigue policière ne soit qu'un prétexte à la comédie. Donc c'était cet équilibre-là qui était compliqué. Puis j'avais décidé de faire une comédie sans acteur labellisé comédie, c'est-à-dire d'amener des comédiens vers des personnages qu'ils n'avaient pas l'habitude de jouer auparavant, qu'ils n'avaient même pour la plupart jamais joué. Et ça rajoutait à la difficulté, mais toute cette difficultés font aussi la singularité du projet et je pense que si le film vous touche et vous émeut et vous fait rire, c'est aussi parce que il est un peu inattendu.
Jérémy s'est volatilisé.
Fallait me le dire que vous alliez braquer un tableau à 5 plaques. D'habitude, vous faites les manteaux dans les barmisoires.
Pour moi, c'était important qu'on ne rie pas gratuitement, qu'on ne rie jamais des personnages, qu'on les accompagne et que tout ça, il y ait quand même un fond, que ça raconte des choses et qu'il y ait une part de mélancolie dans ces personnages qui courent un peu. C'était un peu une course effrénée pour échapper aussi au temps qui passe.
Je vous présente Céleste Siméon, notre meilleure détective.
Je vous en ai, Gentleman. C'est ma mère.
Je croyais qu'elle était morte.
Eh ben, moi aussi.
Les difficultés font partie du plaisir aussi que je prends. Donc ça peut paraître antinomique et paradoxal, mais ce qui était dur, c'était de ne pas perdre pied. Et comme c'était effectivement un film sur les apparences, sur la vérité, le mensonge, et qu'il y a un moment donné où tous les personnages ne savent plus trop quel rôle ils jouent. Et sur le tournage, il y avait des moments où c'était un peu ça, c'est-à-dire qu'on ne savait plus. Je disais, attends, là, c'est ça que tu joues. Ah non, c'est pas ça que tu joues. Non, tu joues. Là, tu joues autre chose, l'autre versant de ton personnage. Et c'est vrai que le plus beau compliment l'un des compliments qui me touche le plus, c'est quand on me dit, mais on ne sait plus s'ils disent la vérité, s'ils mentent et tout. Et c'était un peu la même chose sur le tournage.
Jérémy se planquerait dans le Cotentin.
S'il se cache dans un trou perdu, c'est parce qu'il a encore tableau.
T'es sur ton tuyau parce que c'est cafard ici. Hein.
C'est le moment de faire entrer une pièce rapportée dans la famille.
C'est pas une pièce rapportée, c'est ma nouvelle copine.
J'ai vu mon frère.
Sam, s'il te plaît.
Non mais qu'est-ce que vous faites ici, là? C'est quoi ce tableau?
Quoi? Ne me dis pas que tu lui as parlé du tableau.
Je dis ce que je veux. J'ai l'âge, je suis grand.
Mais on la connaît pas, cette fille. Si ça se trouve, c'est un flic.
T'es jalouse parce que t'as pas d'autre plan. T'as rien d'autre.
J'ai pas de plan, mais j'ai 1000 plans à la minute. Qu'est-ce que tu crois?
Mais c'est quoi, là? C'est Mad Dalton et son fils Joe?
Ils ont l'air de bien s'entendre.
Attention!
Il y a un truc qui est quand même en train de changer au niveau du public. C'est qu'on s'aperçoit que les comédies très formatées, ces comédies où on retrouve les mêmes acteurs, les mêmes décors, les mêmes histoires, les mêmes appartements qui on ne sait pas à qui appartiennent ces appartements parce que ça se passe toujours dans un certain milieu. Enfin bon, et je ne dis pas toutes les comédies, mais certaines comédies comme ça, très formatées, les gens, étrangement, n'y vont plus et qu'aujourd'hui, on voit bien que juste si on parle de dernièrement, que c'est les films, enfin, je parle au niveau du cinéma français, les plus singuliers, originaux qui marchent, que ce soit La Palme d'Or, Anatomie d'une Chute, qui est un grand film et qui fait plus d'un million d'entrées, Le Règne Animal, qui est un énorme succès, qui est magnifique.
C'est pas un bon jour pour tirer sur quelqu'un.
Pour moi, il nous en fume. Pour moi. Qu'est-ce qu'on fout là?
On est ensemble.
Tu vois, je te l'ai dit. Elle est peut-être en train de s'embobiner là.
C'était Thierry Cliffa au micro de Cinérama qui nous donnait son point de vue sur le cinéma. Pas sûr qu'il soit partagé par toute l'équipe. En tout cas, c'était la deuxième comédie de cette émission et on va changer de registre. En pleine puberté, une jeune malaise réalise que son corps se transforme à une vitesse inquiétante. C'est le moment frousse de l'émission Tiger Stripes.
J'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Cinérama.
C'est votre dernier mot ?
Zafan, 12 ans, vit dans une petite communauté rurale musulmane en Malaisie. Alors toutes les femmes, y compris les très jeunes, sont voilées, élément qui a son importance dans le déroulement du récit. Pleine d'énergie, d'une nature sauvageonne et légèrement excentrique, Zafan affiche une joie de vivre, une appétence vorace de croquer cette existence à pleines dents. Alors dès l'ouverture, filmée au smartphone, elle danse dans une rivière au son d'un tube, tout en ôtant ses vêtements dans une simulation de striptease. Alors dans son geste libre, il n'y a aucune provocation, tout découle d'une attitude spontanée, un désir peut-être inconscient de s'affranchir d'un système politique et religieux oppressant. Alors bien sûr, elle est un peu en avance sur ses petits camarades. En pleine puberté, elle réalise que son corps se transforme à une vitesse inquiétante. Alors est-ce normal ? Alors oui et non. Oui parce que dans la vraie vie ça arrive. Non parce que le film emprunte la voix d'un fantastique métaphorique mais explicite, nourri de légendes locales. Devant sa lente transformation, Zafan, sous l'emprise de forces mystérieuses, quasi animistes, en lien avec la forêt aux abords du village, effraie ses amis qui se détournent d'elle. Surmontant ses angoisses, Zafan décide de s'ouvrir au monde avec sa fureur, sa rage et sa beauté lorsqu'elle devient, surprise. L'exploration du corps et de l'identité féminine de la jeune adolescente passe par une symétrie entre l'apparition des règles et la métamorphose physique qui renvoie à une certaine idée du body horror. Alors Tiger Stripes coche sans surprise toutes les cases de la fable féministe contemporaine, restant toujours timidement sur une frontière balisée entre deux genres, le fantastique et le drame social. Amanda Nelliou hein, a du talent. Elle sait diriger ses comédiennes, installer une ambiance légèrement décalée où le surnaturel surgit à l'improviste. Sauf des ruptures de ton passant d'une situation légère au drame le plus pesant, elle parvient aussi à rendre très concret, palpable l'univers des mythes et légendes avec une évidence déconcertante. On en viendrait presque à penser que les créatures imaginaires existent réellement en Malaisie. L'exotisme drape alors d'une aura quasi onirique. La jeune actrice hein, Zafrin Zerizal hein, est prodigieuse. Hein. Elle apporte une folie qui fait par contre cruellement défaut à un film intéressant, mais trop sage au regard d'un sujet subversif. Hein. Le fait que le film soit aussi une coproduction alors, entre la France, la Belgique, la Malaisie et l'Allemagne hein, contribue au lissage d'une œuvre qui ne dérape jamais, s'en tient, on va dire, à son programme un peu de bête de festival. D'ailleurs, ce manque d'audace est objectivement payant puisque le film a remporté le Grand Prix de la Semaine de la Critique à Cannes en 2023, hein, enfin l'an dernier. Alors sur le fond, le film est inattaquable, parabole du combat intime que chacun livre pour révéler sa nature profonde et son individualité dans une société jugeante. Mais la mise en scène exsangue semble effrayée par le potentiel visuel d'une telle histoire, célébration de la monstruosité comme une forme de beauté universelle. Alors, voilà, un film que je trouve intéressant, mais qui manque quand même un peu d'ampleur et d'audace.
Tiger Stripes est en salle depuis le 13 mars. L'argent ne change pas les gens, il révèle juste leur vrai visage. C'est ce qu'on apprend dans Heureux Gagnants. C'est la deuxième interview de cette émission.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Les films à sketch ne sont pas si nombreux et les exemples français manquent par rapport au Creepshow, Quatrième Dimension ou allez Night on Earth de Jim Jarmusch. La comédie en revanche s'y prête. On se souvient en France des Infidèles ou encore du carton de la comédie noire, eh bien les Nouveaux Sauvages. Bon, donc là, ça nous venait du Brésil ou de l'Argentine d'ailleurs ?
Ça nous vient d'Argentine.
C'est aussi avec la comédie noire que Maxime Govard, qui nous a fait des crevettes pailletées, et Romain Chouet nous offrent Heureux Gagnants. Alors pour faire court, des gagnants au loto pour qui la fortune ne va pas rimer avec le bonheur. Alors cela tombe sur une famille qui va pour la énième fois en vacances et la belle-mère par économie, trois terroristes qui veulent commettre un attentat, une jeune fille qui cherche le grand amour et des soignants qui récupèrent un ticket gagnant sur un mort. Quatre histoires qui n'ont rien à voir et quatre fois des comportements qui vont amener immoralité, cruauté et rire. Alors est-ce l'effet du film à sketch? Les comédies souffrant parfois d'un manque de rythme, et bien ici les deux réalisateurs parviennent à mener parfaitement le récit sans erreur. Enfin si, quand même, le film s'ouvre et se ferme avec le même segment, la famille, et la fin du film est trop démonstrative, me semble-t-il, pour emporter l'adhésion. Mais ce n'est qu'un accroc qui ne doit pas vous empêcher d'aller voir ce film en espérant qu'il se taille une place au milieu des Maisons de Retraite 2, Cocorico et autres Chiens et Chats qui, sans aucune audace, parviennent à cartonner. Alors nous avons eu le plaisir de rencontrer Audrey Lamy qui interprète le rôle d'une mère de famille sans le sou, hein, marié à un Fabrice Éboué cachotier, car il a joué au loto et il a fini par gagner.
Oh putain!
Quoi? C'est combien?
Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
5 millions!
5 millions!
On va avoir la vie qu'on mérite avec 5 millions!
Audrey Lamy, avec Heureux Gagnants, vous changez d'univers, enfin en tout cas c'est l'impression que ça donne, hein. Vous passez de la comédie sociale à la comédie noire, alors qu'est-ce qui vous a attiré ?
Je l'attendais depuis très longtemps cette comédie noire, j'aime bien les projets qui sortent un peu du commun et j'attendais une histoire assez originale et quand je suis tombée sur ce scénario, j'ai eu un coup de foudre immédiat et comme je fonctionne souvent au coup de cœur quand j'accepte un projet, celui-ci voilà, m'a tout de suite embarquée parce que je trouvais ça extrêmement bien écrit, parce que je trouvais que le sujet, le fait de parler de gagnant d'une énorme somme, donc de gagnant de loto, je trouvais qu'en tout cas le sujet pouvait se permettre de faire plein, de raconter plein de choses. Et puis le concept du film, c'est-à-dire de raconter ce sujet-là à travers quatre histoires qui n'ont rien à voir et de pouvoir réussir à passer de la comédie romantique à la comédie d'action, à de la comédie d'horreur, un peu trash, un peu satirique. Voilà, je trouvais vraiment que c'était très réussi.
Bienvenue au tirage Top Million de ce jeudi. Allez, c'est parti pour le tirage de ce soir.
Oh, moi, riche que je me casse de ce mouroir.
Avons-nous ce soir un heureux gagnant.
Le 13 !
Le 13 !
J'arrive pas à réaliser, j'ai pas dormi de la nuit.
Et oui, nous avons un grand gagnant ce soir.
On a gagné 60 millions.
Ah non, c'est pas notre ticket.
C'est l'histoire d'un couple qui est au bord de la rupture parce que le souci financier est un gros problème dans leur vie de couple, leur vie de famille, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller ailleurs que chez la belle-mère, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller au resto, au cinéma, que la moindre activité est impossible pour eux, ils n'ont pas les moyens de payer les études aux enfants. À la moitié du mois, ils sont déjà fauchés et ça pèse vraiment sur leur couple. Voilà. Donc on sent dès le départ qu'il y a une tension énorme entre eux. Et sur ce trajet des vacances, on va tomber sur un ticket gagnant. Et évidemment, on a gagné 5 millions, on est euphorique. Des cris de joie, une hystérie totale. Sauf qu'on apprend très rapidement qu'on a une vingtaine de minutes pour se pointer, pour signaler qu'on est les gagnants, les nouveaux gagnants du Grand Loto. Et que si on n'arrive pas à 19h pétante, eh ben le gain sera remis en jeu.
Et c'est à Marseille en plus.
Et c'est à Marseille. Et donc c'est là où toute la comédie d'action se met, parce que d'un seul coup on est en voiture, on voit que le GPS, on nous annonce 19h12. Et qu'il va falloir accélérer, on a un compte à rebours pour pouvoir se manifester.
On divise en trois.
Ouais, alors après, c'est quand même mon ticket là-bas.
En trois.
Ouais.
Depuis que Jeffrey est rentré dans nos vies, le mal est plein au-dessus de nous. On est riche maintenant. Il est riche, il s'en sort de tout, toujours.
Attends, il n'y a pas une date limite.
C'est aujourd'hui.
Audrey Lamy, l'argent ne change pas les gens, il révèle juste leur vrai visage. Alors, c'est en quelque sorte la thèse du film, hein, c'est que l'argent peut être la source de grands maux et votre couple va vaciller.
C'est ce que raconte le film, c'est que comment d'un seul coup les gens sont pas préparés à gagner autant d'argent. Et encore nous dans le film, on est ceux qui gagnent le moins, puisqu'on gagne 5 millions et il y en a qui gagnent 40 millions. Non mais c'est-à-dire que pour les réalisateurs sont quand même un petit peu informés, renseignés. C'est un truc qui change totalement votre vie, qui change votre vie personnelle, votre vie professionnelle, qui change votre entourage. Qui amène de la jalousie et de la frustration pour les autres. Et comment, d'un seul coup, de gagner une somme d'argent aussi énorme va révéler la vraie nature des gens. Et à quel point on peut devenir totalement cinglé après avoir touché une somme énorme.
C'est un film à sketch, mais il se trouve que vous ouvrez le film et vous le clôturez, et c'est la seule exception, finalement. Ça ajoute une note d'optimisme.
C'est pas totalement un film à sketch, parce que je trouve que film à sketch, parfois, on s'attend à... Je sais pas, il y a un truc qui me dérange dans le film à sketch, mais en tout cas, c'est un film où il y a plein d'histoires, parce que justement, comme ce sujet est inépuisable, c'était trop dommage de le faire que sur une famille qui gagne au loto, etc. Là, c'est tellement savoureux de voir une infirmière qui est jouée par Anouk Grimbert, qui est absolument démente dans le film, qui est dévouée. Donc, elle, son segment, son histoire, c'est une infirmière qui trouve un mort, donc un monsieur d'un certain âge qui est mort à l'EHPAD, et qui a fait une crise cardiaque parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait gagné, je ne sais plus, 20 millions d'euros. Et donc, les infirmières décident de partager cette somme. Et elle, Anouk, elle dit « Mais non, ce billet ne nous appartient pas, on ne va pas voler un mort. » Et finalement, elle arrive à se faire convaincre qu'il faut garder ce ticket et que c'est quand même une somme énorme. Et puis finalement, elle va devenir, elle qui était honnête, la blanche colombe, à être totalement dévouée aux autres, elle va devenir démoniaque et atroce. Et elle ne va pas hésiter à abattre les gens qui vont se mettre en travers de son chemin. Et puis nous, le fait d'ouvrir et de terminer le film, ça permettait aussi aux spectateurs de comprendre à quel moment le film allait se terminer. Parce que le fait d'enchaîner aussi plusieurs histoires, il y a un rythme dans lequel on est plongé, puis à un moment donné, ça permettait aux spectateurs de dire voilà, la boucle est bouclée et voilà comment on termine. L'histoire que vous avez vue au début, voilà comment elle va se terminer à la fin.
Ils ont dit qu'avant de me buter... Ils allaient me faire tourner comme la pire des schnecks. Je sais même pas ce que ça veut dire.
C'était Audrey Lamy que nous avons pu rencontrer pour le film Heureux Gagnant, donc qui est en salle depuis le 13 mars. Allez, on change d'univers encore une fois. Immersion dans un centre de détention pour mineurs au Chili. Nous parlons de Miss Hermanos.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement?
Oui. Cinérama.
Le monde devient philosophique.
À l'image de ce qu'elle avait fait dans son précédent long-métrage Malajunta en 2016, Claudia Huayquimilla réitère son intérêt pour les Mapuches, peuple de la terre, un groupe ethnique autochtone d'Amérindiens vivant au sud du Chili. Mais Miss Hermanos lui permet également de renouveler plus largement son intérêt pour les groupes de jeunes hommes de milieux sociaux vulnérables, autochtones ou pas, de dépeindre leurs aspirations et leurs liens interpersonnels avec une grande sensibilité. La fraternité est toujours cadrée au centre de sa lunette, d'autant plus dans ce film qui suit donc deux frères, Andrel et Franco, dit le puceron, avec tendresse dans la manière notamment dont les masculinités sont décrites. Les liens fraternels et amicaux et la solidarité unit un groupe de jeunes hommes dans un contexte extrêmement difficile et prévaut. La scène inaugurale joue bien d'un cadrage qui nous place ces deux frères ados, affalés dans l'herbe, au soleil, dans la douceur de ce qui semble être une après-midi légère de printemps au son des chants d'oiseaux, où ils sont donc tous deux accaparés par leur conversation dans laquelle ils s'amusent de projections dans le futur. Dans un an, rêve de carrière dans le foot au FC Barcelone, dans 5 ans de mariage, dans 10 ans, destin fastueux et tragique. On saisit que tout est énoncé dans une étrange forme conjugale, sorte de futur antérieur qui sonne comme un conditionnel. Au moment où retentit une sirène. Le plan s'élargit pour nous dévoiler l'immensité de la façade en arrière-plan qui n'est autre qu'un mur enclos, écrasant de verticalité, dans un cadre donc fermé, celui d'une institution pénitentiaire. Une prison au milieu de la nature, encerclée par les montagnes. C'est toute la force du film que de faire sans cesse des allers-retours entre ce dispositif foucaldien qu'est la prison, où s'exercent des formes de pouvoir disciplinaire violentes et extrêmement répressives sur des individus qui ne sont que des mineurs, et d'un autre côté, ce qui est cultivé de liberté furtive à travers notamment un lieu symbolique, onirique, la forêt. Gardienne des souvenirs mais aussi de la rêverie de ces jeunes adolescents, au seuil de leur existence mais privés de véritables perspectives d'avenir, seuls les fantasmes, les pirouettes mentales imaginaires leur permettent un échappatoire. Leur avocat ne parvient pas à leur avoir une date de procès au bout d'un an d'incarcération, leur mère abandonne ses démarches de garde et ne se présente plus aux visites, toute la société chilienne semble leur avoir tourné le dos. La famille et l'État font défaut. Contre-pied, il y a un personnage fort qui s'érige comme une alliée, une assistante sociale qui agit en tant que professeur dans le centre de détention, incarnée par l'actrice Paulina Garcia. Comme le souligne bien la réalisatrice du film, ce portrait nous raconte un abandon institutionnel où l'on voit souvent les enseignants et les travailleurs se battre seuls face à une réalité brutale, étant également victimes de ce système qui les a laissés de côté. Son travail de prof dépasse tout cadre éducatif. La première scène où l'on découvre sa salle de classe nous offre directement un aperçu de la teneur et de l'impact de ses interventions sur ces adolescents incarcérés. Elle leur demande de fermer les yeux et projette pour eux la possibilité d'un ailleurs, hors les murs de la prison. Elle les invite à rêver dans une sorte de séance de méditation guidée. « Je vois un futur libre », dit-elle. C'est grâce à elle qu'Andrel, l'aîné, accède à la forêt onirique qui correspond dans le film à son point de vue intériorisé, son refuge de liberté. Le personnage de la prof, Anna, s'illustre ainsi comme le dernier barrage contre l'annihilation des individualités, l'écrasement de ces jeunes dans ce système punitif. Elle cultive pour eux l'espoir et les encourage à rêver, dialoguer et aussi se rencontrer. C'est dans sa classe que la flamme amoureuse va naître entre Andrel et une autre adolescente détenue et c'est aussi là que les liens amicaux sont cultivés positivement. L'amitié est véritablement le principal sous-lieu de complicité et de résistance identitaire dans le film et dans cet environnement. La mise en scène en rend bien compte en privilégiant des cadrages à hauteur des sentiments adolescents, comme a pu le faire Sean Baker dans Florida Project, par exemple. On est dans leurs espaces d'échange, de résilience, alors que les autorités et institutions n'ont pas de visage. Les sonneries et sirènes, les gaz, la médicamentation, les descentes violentes des forces de l'ordre sont autant d'intrusions du hors-champ dans le champ. Confiné parmi les détenus, on est ballotté de la sorte un bon moment dans le film avec ce petit groupe du dortoir 5. L'ombre d'un nouveau détenu, un adolescent survolté transféré depuis un autre centre, nous laisse entrevoir le twist que prendra le métrage à mi-parcours. Les rêves de liberté prennent à son contact le goût du possible. Un prison break se dessine jusqu'au drame, inspiré par celui qui s'est déroulé au centre de détention pour mineurs Puerto Montt en 2007. Une manière donc pour la réalisatrice de rendre hommage et de pérenniser la mémoire de ces jeunes victimes, tout en dénonçant le système qui a participé à les voir périr.
Miss Hermanos, donc mes frères, est en salle depuis le 13 mars.
Alors ?
C'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi ?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai ?
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
La semaine prochaine, nous allons parler de deux documentaires et toi, Sophia, tu auras un sacré morceau.
Oui, le documentaire de Christine Angot, Une famille, un documentaire assez intense, âme sensible, s'abstenir.
Et puis toi, Guillaume, un autre documentaire.
Oui, moi, ce sera plus humide, hein. Ce sera Smoke Sauna Sisterhood de Anna Hintz.
Et puis toi, un titre étonnant.
Oui, une sorte de feel-good movie, même si c'est un film fantastique. Vampire humaniste, cherche suicidaire consentant.
C'est comme une petite annonce. À la semaine prochaine.